Frères et sœurs, nous nous approchons de la fin de l'année liturgique et nous lisons les derniers chapitres de l'évangile selon saint Marc, l'évangile qui a rythmé la liturgie, le temps ordinaire, tout au long de cette année. Nous avons entendu, justement cette année, des récits qui nous montrent un Jésus qui guérit les malades, délivre les possédés, accompagne et forme ses disciples, répond aux controverses avec les scribes et les pharisiens. Ce dimanche, au chapitre 13, qui est le chapitre qui précède la passion, la mort et la résurrection, Jésus nous révèle un aspect nouveau de sa personne. C'est un chapitre tout à fait particulier dans l'ensemble de ces 16 chapitres de l'Évangile selon saint Marc. Il se présente, vous l'avez entendu, comme ce Fils de l'homme qui viendra dans les nuées, avec grande puissance et gloire. Nous nous sommes habitués à voir et à contempler peut-être un Jésus pauvre, près des tout petits. Ce dimanche, Jésus nous parle de sa gloire et de sa puissance. Cette réalité ne nous est pas complètement étrangère, puisque dans la liturgie, nous la retrouvons dans la prière de l'Église, par exemple. Après la consécration à l'anamnèse de la messe, nous disons « Nous attendons ta venue dans la gloire. » Et quand nous prions le credo, que ce soit le credo, le symbole des apôtres ou le credo de Nicée-Constantinople, nous proclamons de notre foi. Il est assis à la droite des dieux, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Ou alors, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et après le Notre Père, dans cette prière de la liturgie qu'on appelle l'embolisme, nous proclamons « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. » Quel est le sens de cette toute puissance, de cette puissance, de cette gloire des dieux pour nous, pour l'homme moderne? Les premiers versets de l'Évangile sont particulièrement forts pour la culture scientifique dans laquelle nous vivons. Nous avons entendu, en ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Au retour du Christ, tout l'univers et ses puissances jadis divinisées par les hommes se soumettent au pouvoir du Christ, le seul Seigneur. Dans notre culture, on nous fait croire que le vrai pouvoir, la force et l'intelligence viennent d'un certain type de connaissances supérieures et que la personne de Jésus et ses déclarations de l'Évangile sont à classer dans cette sphère du sentiment religieux qui n'a rien de vrai, qui n'a rien de scientifique. Que des fois, j'ai discuté avec des personnes, par exemple, à propos du livre de la Genèse, parce qu'il n'y a pour eux qu'une seule manière de lire ces textes, la méthode scientifique. Je sens parfois Galilée s'est retourné dans sa tombe pour nous rappeler ce qu'il disait déjà à ses inquisiteurs au VIe siècle. L'intention du Saint-Esprit, disait Galilée en inspirant la Bible, est de nous enseigner comment aller au ciel et non pas comment il est constitué le ciel. L'intention du Saint-Esprit n'était pas de nous donner une description de comment Dieu a mis son casque d'ouvrier et s'est mis au chantier de la création, mais de nous en révéler le sens, une vérité, on nous le rappelle le Concile Vatican II, dans l'ordre du salut. Il met bien à l'esprit, dans ces moments des dialogues, des conversations à propos de la création, de l'évolution, etc., cette histoire, vous savez, de cette fillette qui vient voir sa maman très inquiète et dit « Maman, je ne comprends plus rien. Toi, tu nous as dit que tout le temps que Dieu nous a créés, qu'il nous a façonnés de sa main, que nous sommes des êtres divins, etc. » Et puis voilà, je vais voir mon père, et il me dit que pas du tout, que le résultat de l'évolution, qui ont des centres du sang, du chimpanzé, du gorilla, etc. Et donc moi, je suis perdu. Et sa maman lui dit, bah, écoute, c'est très simple, ne te prends pas la tête. Lui, il parle de sa famille, et moi, je parle de la mienne. Maman, ne te prends pas la tête. Dans la foi, comme dans la loi, il ne suffit pas d'avoir la connaissance, mais encore faut-il avoir la vision de la gloire qui est à l'origine de toutes choses, avoir le regard de Dieu à l'origine sur toutes choses. Et la première de ces vérités, dans l'ordre du salut, la voilà, celle qui vraiment ressort de la parole de Dieu. Jésus est le Seigneur de la vie et de l'histoire, Seigneur de cet univers mystérieux qui défie l'intelligence du scientifique, et réjouit le cœur de l'homme religieux comme Pascal quand il écrit « Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. » Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est le maître de la vie et de l'histoire. Combien de fois il y a des événements dans notre vie que nous ne maîtrisons pas, dont nous avons vraiment du mal à avoir l'intelligence. Eh bien, dans l'histoire, nous le savons, à la lumière de la miséricorde, de la justice des dieux, il y a un sens à donner à tous les événements de notre vie. La foi en un Dieu provident, Père plein d'amour, Seigneur du ciel et de la terre, change tout, comme pour cet enfant qui dormait paisiblement dans son bateau au milieu d'une terrible tempête. On lui pose la question, « Tu n'as pas peur, petit ?» Non, je n'ai pas peur. Le capitaine, c'est mon papa. Le Seigneur de la vie et de l'histoire, c'est mon père. C'est Dieu, notre père. Aucun d'entre nous ne peut accéder au commencement, comme aucun d'entre nous n'est contemporain de sa naissance, en tout cas par la connaissance. La foi nous dit qu'au commencement était le Verbe, Jésus, la parole du Père. Et voilà que ce qui unit et anime tout discours, toute explication scientifique, religieuse, par exemple, comme le livre de la Genèse, quand il s'essaye de rentrer dans le mystère de ses commencements en dehors du temps. Ce qui unit la mission scientifique et religieuse, c'est la supposition que toute chose est créée avec logos, avec intelligence, et donc intelligible. Et derrière tout, il y a un sens, il y a un projet. Pas un projet impersonnel, mais un projet d'amour d'un Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ. Si vous avez eu l'occasion de lire ces textes vraiment remarquables du pontificat de Benoît XVI sur l'espérance, Spe Salvi, c'est sur ces points-là vraiment qu'il va énormément insister. Le fait qu'avec Jésus, il y a vraiment un bouleversement du rapport de l'homme à toute chose, à commencer par la création, puisque ce n'est plus une force impersonnelle, mais l'amour d'un Dieu qui a tout prévu, qui a tout préparé pour nous. Les six jours de la création et la théorie du Big Bang, du Père le Maître, se rejoignent dans le fait qu'il y a un Dieu qui a créé et pensé l'univers comme un cosmos et non pas comme un chaos, et que l'homme peut se perdre dans les théories ou alors se laisser rejoindre par cette explosion de l'amour divin qui partage de manière singulière sa vie avec l'homme en devenant lui-même notre frère en humanité. Quel est le sens de la puissance pour l'homme moderne, de la puissance des dieux? Voilà la puissance des dieux, frères et sœurs. C'est d'abandonner sa richesse. On le rappelle, saint Paul, lui qui était riche, il est devenu pauvre pour nous rejoindre dans notre humanité, dans notre pauvreté. L'évangile de ces dimanches nous rappelle que toute chose s'achemine vers la plénitude à la fin des temps, quand Jésus se manifestera dans sa gloire. Le ciel et la terre créés par la parole des dieux passeront. Toute chose passera. Une seule restera. Le Verbe éternel, Jésus. Et tous ceux qui ont écrit leur nom dans le cœur de Jésus en faisant le bien aux plus petits. Écoutez la parole de Jésus et la mettre en pratique. est le chemin offert à l'homme pour entrer en communion éternelle avec lui, pour échapper au passage des choses de ces mondes et pour entrer dans l'éternité. Le jour de notre baptême, nous n'avons pas fait un pas dans le vide, comme ces politiciens qui disaient « Notre pays était au bord du gouffre et avec moi, on a fait un pas en avant. » Nous avons déposé notre avis sur la seule parole qui ne passe pas, Jésus. Qu'il soit, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, la joie de notre cœur, lumière pour nos yeux, notre roc solide. Amen.